On est toujours sur les ondes de Choc FM avec notre chroniqueur BD, Serge Paul. Bonjour Serge.
Bonjour Raki, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va, je devrais t'appeler Raki Touré parce que tu m'appelles Serge Paul.
Alors Serge, tu vas nous parler de choses intéressantes aujourd'hui, j'imagine.
Bah, j'espère bien. Oui, on parle beaucoup des bandes dessinées et on fait pas mal de critiques sur cette chronique, mais on parle rarement des dessinateurs eux-mêmes. Alors je vais vous parler un peu de ce que c'est un dessinateur ou une dessinatrice.
Ah ok, super, on voit un peu l'envers du décor, disons.
Exactement. En fait, la bande dessinée est plus connue, en fait, c'est le nom, plus connu. C'est le 9e art, en fait, hein. Il y a pas mal d'art dans le 9e art, mais c'est pas un art des plus accueillants, en fait, pour les dessinateurs.
Ah bon?
Parce que pour percer en bande dessinée, on doit avoir un bon coup de crayon, mais aussi une forte personnalité, un réel talent de scénariste et une infinie patience. Alors, pourquoi ça? Oui. Je vais un peu enfoncer une porte ouverte. Mais pour être dessinateur, il faut savoir dessiner déjà. Mais pour savoir dessiner, c'est important d'ouvrir grand les yeux, regarder bien autour de soi, surtout si les dessins se veulent réalistes. Si on fait un bande dessinée un peu comme Astérix ou Obélix, c'est pas très réaliste. On peut avoir sa propre façon de dessiner, mais si on veut faire quelque chose d'un petit peu comme 13 ou Largo Vinch, qui sont des personnages très très réalistes, il faut vraiment avoir un bon coup d'œil et avoir une bonne inspiration. Il faut aussi pas être que graphiste ou dessinateur, il faut savoir écrire un scénario. Souvent, comme je te dis dans d'autres chroniques, les dessinateurs sont aussi des scénaristes, mais il y a aussi des dessinateurs qui travaillent avec d'autres scénaristes et qui sont deux sur le projet. Mais souvent, si tu débutes, c'est bien d'avoir ta propre histoire, parce que tu vas pas forcément trouver un scénariste qui veut travailler pour toi ou avec toi si t'as pas encore fait tes débuts ou tes preuves. Donc, important aussi d'avoir une belle histoire et qui dit bonne histoire, dit un storyboard bien découpé, un storyboard bien préparé et qui va intéresser quelqu'un. Tu peux raconter une histoire drôle qui peut être extrêmement drôle. Si tu sais pas la raconter, ça va être vraiment pas drôle du tout. Donc il faut savoir raconter ton histoire pour qu'elle soit drôle si tu veux faire rire tout le monde, mais aussi pour qu'elle intéresse tout le monde si tu veux écrire une BD et que tu veux que les gens soient intéressés à la lire. Tu peux avoir une super idée, mais si tu la racontes mal ou si tu la présentes mal, parce qu'il y a ça aussi, il faut savoir présenter ses bandes dessinées sous le meilleur angle. C'est encore une chose à savoir faire. Et puis, bien comme je disais tout à l'heure, il faut savoir dessiner. On peut apprendre tout seul dès le plus jeune âge, mais une bonne formation de graphiste, ça peut pas mal aider. Donc, c'est pas si facile que ça. Finalement, il y a plein de choses qu'il faut savoir faire. Parce qu'on se retrouve très souvent assez seul au départ quand on commence au niveau de l'ordinateur. Au niveau de l'ordinateur, je dis ordinateur parce que souvent les dessinateurs, maintenant c'est fini le coup de crayon, c'est souvent à l'ordinateur. Les qualités graphiques du dessinateur, vont s'appuyer beaucoup sur sa façon d'utiliser les logiciels de dessin qui aident beaucoup à élaborer la bande dessinée. Donc, il faut pas non plus se cantonner uniquement au crayon et au papier, parce qu'il y a plein de choses qui sont par ordinateur en ce moment et qui rend la bande dessinée plus intéressante. Mais ça doit être juste un outil. Le dessinateur qui utilise son ordinateur en disant ça va marcher grâce à mon ordinateur, c'est pas le cas en fait.
Donc c'est dessiner d'abord et ensuite quoi, éditer à l'ordinateur, tout ça?
C'est dessiner, c'est avoir, comment dire, une personnalité et dessiner parce que tu as envie de dessiner, mais j'ai utilisé l'ordinateur comme un outil de dessin, comme quand tu utilises ton crayon pour ou ton fusain ou ta peinture, parce que tu veux les utiliser dans ton dessin. Pas dire, je vais utiliser la peinture rouge parce que ça va être cool, et ça sert à rien dans ton dessin, tu vois ce que je veux dire? Donc, utiliser l'ordinateur, ça peut être super cool, et faire des dessins 3D, choses comme ça, mais si ça apporte rien à ton histoire, ça sert à rien du tout. Mais c'est important de savoir l'utiliser quand même. C'est vraiment super important. Il faut être patient aussi quand on est dessinateur. Parce qu'avant de parvenir à se faire publier par une maison d'édition, la persévérance et le courage sont indispensables. De même que la patience. On peut être penché pendant de longues heures sur sa table à dessin, où on n'arrête pas de gommer, de recommencer, de copier, de coller si on utilise un ordinateur. C'est très très lourd en fait. Je sais que on peut passer pratiquement 8 à 9 mois sur une bande dessinée pour la dessiner. Donc ça prend du temps. On fait les esquisses, on fait le storyboard, après on encre. Donc il y a plein on fait le coloriage, c'est très 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 long. Donc c'est pas quelque chose qui se fait très très vite en 2 minutes. comment on peut être dessinateur? On peut être dessinateur indépendant. Il y a beaucoup d'éditeurs de BD de plus en plus parce que le public est de plus en plus intéressé par la bande dessinée. On voit dans les mangas, il y a énormément d'éditeurs et pourtant le recrutement des dessinateurs se fait en fait au compte-gouttes. Les petites maisons d'édition en fait se montrent plus ouvertes aux nouveaux talents, tandis que les plus grandes travaillent souvent avec les mêmes personnes. Donc être indépendant reste majoritaire. Les dessinateurs doivent démarcher eux-mêmes les éditeurs et aller les chercher. Comme quand t'es un écrivain et que t'écris un livre et que tu envoies ton livre à 10 000 éditeurs pour essayer de travailler. Puis si ça marche pas, bah peut-être que tu vas l'éditer tout seul au départ. Okay. Donc il faut être prêt à faire ça aussi. Donc peut-être à connaître un peu les tenants et les aboutissants de l'édition.
D'accord.
On peut travailler aussi collectivement. Il y a certains dessinateurs qui se sont mis en association et pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir éditer leur livre ou se mettre ensemble sur un magazine de BD aussi, ça peut marcher, et pour pouvoir publier ses livres après. On peut aussi publier dans des revues numériques. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut être bon en ordinateur, mais ça peut aussi servir pour se publier sur le web. Oh. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui se publient sur le web actuellement, et comme des vidéos qui sont sur YouTube, et qu'on dit ben, « je lance ma vidéo sur YouTube et on voit qui va la voir ben », là c'est pareil pour ta bande dessinée. Tu peux la mettre sur le web et puis dire ben, « voilà ». Ceux qui veulent l'avoir, un peu comme un blog, ceux qui veulent le lire ou ceux qui veulent l'avoir, ben, allez-y. Mmh. Et puis, au nombre de lecteurs que tu vas attraper, peut-être que tu vas intéresser certains éditeurs qui vont finalement vouloir imprimer ta BD sur du papier.
Ok.
Donc voilà, c'est pas un métier des plus faciles. Il faut vraiment être passionné. Allô?
Ouais.
Ah, pardon, excuse-moi. Je croyais que ça avait coupé. et puis, voilà, donc... Mais si vous avez ça dans le sang et si vous dessinez depuis tout petit, n'hésitez pas parce que ça peut être vraiment, vraiment le fun. Et vous pouvez effectivement connaître de très, très belles choses et de très mauvaises choses, comme tout artiste.
Ouais, c'est pas
le plus facile des métiers, être artiste. On pense que c'est souvent glamour et qu'il y a plein de choses vraiment le fun. Mais c'est pas forcément ça.
Ouais.
En parlant de choses qui sont pas très, très fun, j'ai découvert une bande dessinée assez intéressante. Cette semaine, si tu veux, je peux enseigner là-dessus. Est-ce que ça te va, ma chère Akina?
Oui, avec plaisir.
Alors, ça s'appelle The Infinite Loop, donc la boucle infinie en français. C'est dessiné par. Excusez-moi, je retrouve ça sur la bande dessinée. Alors, c'est dessiné par Elsa Chartier et c'est le scénariste, c'est Pierrick Collinet. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'est deux personnes qui travaillent. Et c'est intéressant parce que au départ, j'ai jugé un peu le livre par sa couverture. Mm-hmm. Et quand j'ai commencé la lecture du tome 1, parce que c'est le premier tome de Infinite Loop, j'ignorais en fait complètement de quoi parler le récit. Ça, j'adore faire ça. Je me dis, tiens, c'est pas intéressant, on va voir. Et puis, je pensais qu'il s'agissait de science-fiction et j'étais vraiment surpris par ce livre. Mm-hmm. En fait, on découvre une intrigue qui se concentre sur l'histoire d'amour de deux femmes.
Oh.
Et sur leur combat contre un monde qui considère leur relation comme anormale.
Okay.
Il y a encore un peu le cas aujourd'hui, même si ça devient le plus en plus accepté, mais c'est pas très, très facile. On peut trouver les deux premiers tomes en fait qui s'appellent L'éveil et la lutte aux éditions Glénat Comics.
Okay.
Donc l'histoire, ça se passe dans un futur très assez proche, dans lequel l'héroïne qui s'appelle Teddy. Elle doit corriger les anomalies pour le compte d'une organisation gouvernementale.
Okay.
Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans tous les jours? Elle voyage dans le temps pour corriger les bugs temporels. Donc, c'est déjà très, très science-fiction.
Ouais.
Et puis, en autre, elle supprime les anomalies, les objets, les êtres vivants qui n'étaient pas censés exister dans telle ou telle époque. Donc, c'est vraiment très futuriste où les gens ont maîtrisé différents voyages dans le monde. Et puis, voilà. C'est un peu compliqué au départ, mais c'est super simple, finalement. Donc, donc c'est cette organisation qui décide de supprimer les tyrannosaures, les sèche-cheveux, les sabres laser, des bêtises. Ça fait assez drôle en fait au départ. Et on est vraiment dans la science-fiction dès le départ, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que le cadre est vraiment et le seul but de l'histoire, c'est défendre le droit d'aimer librement. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on est embarqué dans un truc super science-fiction. Parfois, on se dit mais c'est pas ça le but du livre. Et j'aime bien ça. Parce que ça t'embarque ailleurs et puis t'es finalement happé par ça parce que le message est super intéressant et ça montre ça montre un peu l'évolution de la représentation des gays et lesbiennes dans les comics et dans les BD. Et ça rappelle la difficulté de s'épanouir lorsque la société ne cautionne pas forcément certaines histoires d'amour. Donc,
Ça a l'air super intéressant.
Ouais, non, c'est... Donc, en fait, Teddy, dont je parlais tout à l'heure, est censé éliminer une jolie jeune femme qui est censée être une anomalie. Et puis, finalement, elle va tomber amoureuse d'elle et elles vont être considérées toutes les deux comme des anomalies parce qu'elles sont amoureuses l'une de l'autre. Donc, voilà, je ne dis pas plus, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, ça s'appelle The Infinite Loop et c'est édité aux éditions Glénat Comics. Non, j'aime bien ce genre d'histoire. Au niveau BD, ça garde les côtés contemporains et les idées contemporaines et le message est vraiment génial.
Ah, ça a l'air en tout cas vraiment intéressant.
Ben, merci Raki.
Comme à chaque fois. Merci beaucoup Serge.
Avec plaisir.
Nous on reste sur les ondes de Choc FM 105.1.